Il est 18h. Le journal avec Corinne Audouin.
Bonsoir, Julian Alaphilippe, champion du monde de cyclisme pour la deuxième année consécutive. Exploit inédit pour un coureur français à Louvain en Belgique. Il a franchi la ligne d'arrivée seul après une échappée de 17 km. Heureux et incrédule, vous l'entendrez. En Allemagne, les dés sont jetés, les bureaux de vote ferment à l'instant. Nous serons à Berlin dans quelques minutes pour les premiers résultats de ces élections législatives qui ouvrent une nouvelle ère, celle de l'après Merkel. 52% de femmes au Parlement islandais, c'est historique. L'Islande est le premier pays d'Europe à franchir cette barre symbolique des 50%. Et puis, 2 ans après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, les associations de victimes veulent des réponses et attendent des sanctions. Elles manifestaient aujourd'hui à Rouen. La météo, rien que du classique, il fera beau dans le sud, il pleuvra dans le nord, nous dira Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Je ne pensais pas être capable de tenir jusqu'au bout, et pourtant il l'a fait. Julian Alaphilippe remporte pour la deuxième année consécutive les championnats du monde de cyclisme. Un exploit qu'il est le premier cycliste français à réaliser. C'était à Louvain, en Belgique. Le français s'est échappé seul, à 17 km de l'arrivée, pour arriver peu avant 17h, avec 30 secondes d'avance sur le deuxième, le néerlandais Dylan Van Baarle. Et loin devant celui qu'on donnait comme favori, le belge Wout Van Aert, qui finit 11e, malgré les centaines de milliers de supporters belges présents tout au long de ce parcours de 268 km entre Anvers et Louvain. À 29 ans, Julian Alaphilippe va donc garder encore un an le maillot arc-en-ciel. On l'écoute presque incrédule.
L'année dernière, c'était déjà vraiment un rêve qui se réalisait pour moi. Voilà, je sais ce que c'est de faire un an avec le maillot arc-en-ciel et je suis arrivé ici vraiment détendu, vraiment relax avec forcément beaucoup de motivation, mais certaines formes de relâchement, je sais pas, juste envie de bien faire, juste envie de travailler pour l'équipe et oui, aller chercher le meilleur résultat possible. Je savais que les jambes étaient bonnes, j'ai bien travaillé les dernières semaines. Le parcours nous convenait bien et dans le final, j'ai fait un peu la sélection. On était encore bien devant avec Florian Sénéchal et Valentin Madouas. Et ensuite, voilà, j'ai dit à Florian, économise-toi le plus possible. Je vais voir ce qui se passe en essayant de créer du mouvement et j'ai pas imaginé faire un tour et demi tout seul. Beaucoup de supporters qui étaient pour la Belgique et pour Wout Van Aert dans le dernier tour me demandaient de ralentir. Ils n'avaient pas toujours des mots très sympas, donc je tiens à les remercier parce que ça m'a vraiment donné envie d'appuyer encore plus fort.
Voilà, Julian Alaphilippe, le double champion du monde de cyclisme et jamais 203, vient-il de dire. On verra ça l'année prochaine. Direction Berlin maintenant, où les premiers résultats des élections législatives sont en train de tomber. Les bureaux de vote ont fermé à 18h. Un scrutin historique, on le rappelle, puisqu'il ouvre l'ère post-Angela Merkel après 16 ans à la tête de l'Allemagne et une cote de popularité inébranlable. C'est plus compliqué pour ses successeurs potentiels. On annonçait des résultats serrés entre la CDU, le parti de la chancelière, et les sociaux-démocrates. Ludovic Piétenu, vous êtes à Berlin pour France Inter, bonsoir.
Bonsoir.
Et c'est une confirmation, c'est en effet très serré, Ludovic.
Je vous le confirme, 25% pour la CDU-CSU, le parti conservateur, le parti de la chancelière Merkel et son candidat Armin Laschet, et le même score, 25% à 18h03 pour le SPD et son candidat donné jusqu'ici dans les sondages avant ce scrutin favori. Donc 25-25, impossible de dire à ce stade, à cette heure, qui sera le futur chancelier d'Allemagne. Il faut a priori qu'un parti termine en tête devant pour être, disons, le plus légitime, celui qui peut prétendre mener des négociations de coalition par la suite. Je vous donne les autres résultats. Les Verts sont en troisième place avec un score de 15%. Le FDP, les libéraux et l'extrême droite AFD feraient exactement le même score à 11% des voix. Suit ensuite le parti de gauche, Die Linke, qui s'effondre un peu, 5% tout juste, de quoi rentrer au Parlement. Ce qui empêche des coalitions, parce que c'est bien ça la question, c'est aujourd'hui quelle majorité est possible avec ces scores que je vous ai donnés au Bundestag. Ça offre par exemple la possibilité d'une reconduction de la grande coalition qui a gouverné l'Allemagne ces 12 des 16 dernières années, les 3 des 4 mandats d'Angela Merkel. Mais a priori, aucun de ces deux partis-là ne veut reconduire cet attelage. Ça exclut aussi une coalition rouge-rouge-verte qui est une coalition entre entre les sociaux-démocrates, la gauche et les Verts. On partirait donc plutôt sur une coalition avec des libéraux à 11 points et des Verts à 15 points. Mais avec qui ? Ce sera soit avec les Noirs, les conservateurs, soit avec les Rouges, les sociaux-démocrates. On en saura plus dans la soirée, bien évidemment.
Merci Ludovic Pitenu. On comprend bien que tout est ouvert avec ces résultats assez inattendus finalement. 25% pour la CDU et 25% pour le Parti social-démocrate. On revient évidemment sur ces résultats avec plus d'analyses de réactions dans le journal de 19h. Un peu plus au nord, en Islande, ce petit pays de 370 000 habitants fait l'histoire aujourd'hui. Pour la première fois en Europe, le Parlement sera majoritairement féminin à 52%. Et ce n'est pas un hasard si ce seuil symbolique est franchi en Islande. À Reykjavik, Jérémy Richard.
L'Islande avait déjà atteint la quasi-parité lors d'élections anticipées fin 2016 avec presque 48% de femmes au Parlement, mais jamais en Europe la barre d'au moins la moitié n'avait été franchie. La Suède était jusqu'à présent le plus paritaire du continent avec 47% de femmes parlementaires. Ailleurs dans le monde actuellement, le Rwanda et Cuba font encore mieux que les quelques 52% de l'Althingi, la représentation nationale islandaise. Mais contrairement à d'autres pays, il n'y a pas de quotas légaux en Islande, bien que plusieurs partis aient instauré volontairement qu'un nombre minimum de candidats soit des femmes. C'est 33 sièges sur 63 en faveur de députés EES. C'est la suite d'une tendance avant-gardiste pour la cause féminine dans le pays qui trouve ses racines au milieu des années 70. À l'époque, une immense grève des femmes pour demander une meilleure place dans la société et à être payées de manière égale par rapport aux hommes cimente les profondes transformations qui ont suivi. L'Islande est notamment le premier pays à avoir élu démocratiquement une femme, chef de l'État en 1980 et à introduire une loi pionnière en 2018 sur la parité salariale obligeant les entreprises à certifier que les écarts de salaire ne sont pas liés au genre. À Reykjavik, Jérémy Richard pour France Inter.
Et puis c'est un grand oui, la Suisse devient le 16e pays d'Europe à autoriser le mariage entre personnes du même sexe à l'issue d'un référendum remporté par les partisans du oui avec 64% des voix. Retour en France, 2 ans après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. 200 personnes ont manifesté dans les rues de la ville. 10 000 tonnes de produits chimiques avaient brûlé, faisant craindre des effets à long terme sur la santé. Les associations de victimes, des victimes de Lubrizol réclament la vérité sur cet accident. Elles attendent aussi des sanctions. En juin dernier, la Cour d'appel de Paris a maintenu la mise en examen de Lubrizol. L'instruction est toujours en cours, mais les questions restent nombreuses. Le reportage à Rouen de Bastien Thomas de France Bleu Haute-Normandie.
Aubanne avait 9 ans lorsque l'incendie de Lubrizol s'est déclenché. 2 ans plus tard, les images restent gravées dans son esprit.
En cours, j'ai vu les tables de ping-pong noires, les bancs noirs. Et quand je suis revenue, ma mère, elle a regardé mon dos et il était plein de suie. De voir tout ce noir partout dans la cour, ça m'a choquée.
C'est la première fois que la jeune fille manifeste et c'est sa maman Isabelle qui l'accompagne. Elles habitent à Serqueux, près de Forges-les-Eaux. Les conséquences de l'incendie de l'usine se ressentent jusque dans leur jardin.
Dans les lichens, on a trouvé 3126 microgrammes de HAP, alors que le seuil d'alerte est de 1500. Ce sont des produits potentiellement cancérigènes. Ça reste dans un petit coin de notre mémoire avec une certaine inquiétude.
Les associations de victimes s'attendent à un combat judiciaire long, un peu comme celui de l'usine AZF à Toulouse, condamnée après 19 ans de procédure. Mais pas de raison d'abandonner. Christophe Houlleville est le secrétaire de l'association des victimes de Lubrizol.
On veut la vérité, on veut que Lubrizol soit condamné lourdement et on veut aussi faire avancer la loi.
Les différents collectifs seront reçus mercredi à Paris par les sénateurs. Un rapport sur les mesures de sécurité à mettre en place a été publié. Les élus souhaitent savoir si, sur le terrain, elles sont bien appliquées.
Reportage de Bastien Thomas de France Bleu Normandie, la météo.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Beau dans le sud, pluie au nord, rien que du classique Jean-Michel Golinski.
Les régions méditerranéennes vont pouvoir profiter d'un large ensoleillement ce lundi et ce toute la journée, tandis que sur le reste du pays, les éclaircies seront moins durables avec l'arrivée d'un système pluvieux déjà la nuit par la Bretagne et les Pays de la Loire, poussé par un vent d'ouest turbulent. En progressant vers l'est, les pluies plus marquées dans la moitié nord vont gagner les frontières de l'est en fin de journée, en passant par le début de l'après-midi à Lille, Paris, Limoges, Toulouse et Biarritz, dans des températures qui vont légèrement fléchir dans le quart nord-ouest avec 18 prévus à Brest, 20 à Lille, Tours et Paris, des valeurs identiques à la veille ou pratiquement sur les villes les plus à l'est et de la moitié sud.